Je vous propose plusieurs lectures sur lesquelles nous reviendrons. D'abord dans le livre de Néhémie, au chapitre 3. D'abord les cinq premiers versets. Éliakim, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méal, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Sénaa reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Méremoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel, et plus loin, Tzadok, fils de Bana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des chefs des maîtres d'œuvre. Nous sautons quelques versets et nous allons au verset 28. Les versets 28 à 30. À partir de la porte des chevaux, donc nous continuons à faire le tour des murailles, les prêtres travaillaient chacun en face de sa maison. Au-delà, Tzadok, fils d'Imer, tiens, réparait devant sa maison, et ensuite Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent le secteur suivant, et au-delà, Meshulam, fils de Berekia, travaillait en face de sa demeure. Voilà. Allez, nous allons plus loin dans l'évangile de Luc. Nous allons lire au chapitre 21 les quatre premiers versets. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait deux petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et enfin, nous allons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et c'est sur ce texte que nous nous arrêterons plus précisément. Dans ce texte qui parle du corps qu'est l'Église et des différents membres qui le constituent, nous allons lire les versets 20 à 25. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Notre fête de reconnaissance est matérielle. Bon, mais aussi, et on est d'accord, en théorie en tout cas, elle devrait être avant tout spirituelle. Reconnaissance à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. C'est ce que nous avons vu dans la première partie. Reconnaissance à Dieu pour l'Église qui est son corps. L'apôtre Paul, en particulier à ce sujet, dit en écrivant aux Colossiens, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. Reconnaissant pour ce corps, reconnaissant pour l'Église. C'est déjà une prise de conscience importante que de remercier Dieu pour l'Église, pour les membres que nous sommes, et pour tous les membres de ce corps. Alors le corps est constitué de différents membres, rappelle l'apôtre Paul. Certains paraissent essentiels, d'autres moins. Dans l'Église, certaines personnes sont importantes. Elles prennent part activement à la vie matérielle, spirituelle. Elles ont été ou sont engagées dans le conseil de l'Église. Ces personnes sont moniteurs, monitrices. Ces personnes parlent au culte. Et puis il y a les autres. Les personnes qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne remarque pas ou peu. Et pour certaines d'entre elles, leur place dans l'Église est comme celle qu'on peut occuper au culte, au fond, par discrétion. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'engagement du chrétien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter plus spécialement sur les membres de ce corps qui paraissent bien discrets. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit « Les parties du corps qui paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. » Et il nous invite à dire justement de mettre l'accent davantage sur celles qui manquent naturellement d'honneur. Alors je vous propose de le faire aujourd'hui. Et oui, ce matin, nous allons nous mettre du côté de ceux qu'on ne remarque pas, qui paraissent moins importants que d'autres, pas des paresseux ni des fuyants, non, mais des habitués de l'ombre, qu'on ne voit pas, qui ne manifestent pas le désir d'être remarqués peut-être. Ceux-là pourtant sont importants, et ils devraient l'être pas seulement aux yeux de Dieu. Nous voulons, comme l'apôtre Paul le dit, être reconnaissants pour chacun des membres de son corps, qu'est l'Église, et nous arrêter sur ceux qui paraissent insignifiants ou faibles, ça dépend des traductions, littéralement c'est ceux qui sont sans force. Quelques exemples bibliques d'abord. La Bible est remplie en fait de ces personnes sans importance, qui pourtant ont transformé l'histoire, qui ont déclenché des miracles et qui ont réalisé le plan de Dieu. Certains sont bien connus, d'autres peut-être oubliés, ou en tout cas méconnus. Gédéon, voilà l'homme qui se cachait au sous-sol. Lui, le plus petit de sa famille, qui était elle-même, et tout cela selon ses dires, la plus petite des tribus, qui d'autre part était toute rabaissée, humiliée par les tribus amalécites. Et Dieu se choisit comme vainqueur cet homme qui semblait si insignifiant. On peut penser aussi à la servante de Naaman, le général syrien, une fillette dont on ne connaît même pas le nom. Elle avait été faite prisonnière par ce général quand il était venu en Israël. Et pourtant, Naaman lui doit une fière chandelle. Elle a juste parlé du prophète Élisée qui pourrait prier pour sa guérison. Et tout a changé pour lui alors. Qui connaît Josheba? Je ne me rappelais pas de son nom. Il a fallu que je fasse quelques recherches. C'est elle qui a caché le fils du roi Akasia, bébé, et a permis à ce futur roi Joas de survivre alors que la reine Athalie avait massacré tous les autres membres de sa famille. Et il est devenu par la suite un des rois les plus remarquables. On peut parler du peuple d'Israël en général, lui ce petit peuple parmi toutes les nations. Il avait de quoi se dévaloriser à cause de son attitude trop souvent lamentable Et pourtant, Dieu porte sur lui un regard bien différent. Ésaïe chapitre 41 et 43. « C'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je te saisis ta main droite et je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, petit Israël, car je viens à ton aide. Oui, tu m'es précieux, tu as du prix pour moi et je t'aime. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. » J'ai pensé aussi à certains disciples qui faisaient partie de l'équipe de Jésus et qui allaient révolutionner la société d'alors. Et pourtant, ils sont presque inconnus pour plusieurs d'entre eux, sauf leur nom, comme Barthélemy, Jude, Simon, pas celui que Jésus appellera Pierre. On ne sait rien de leur travail par la suite, mais ils ont été choisis par Jésus et ont eu leur place dans l'œuvre de Dieu. Et puis, dans les évangiles, eh bien, on voit que Dieu s'attache à souligner l'attitude de ces petits qui paraissent insignifiants et qui ont pourtant participé au plan de Dieu. C'est le don de ce jeune garçon qui n'a apporté que 5 pains et 2 poissons. Pour lui, c'était énorme, mais par rapport à une foule de plus de 10 000 personnes, c'est ridicule. Mais sans son don, rien ne se serait passé ce jour-là. On imagine Jésus et ses disciples près de la porte du temple, à la fin du culte, en train de regarder les dons tombés dans le tronc. Il faut le faire, je trouve. Et il regarde tous les donateurs, mais il remarque tout particulièrement cette pauvre veuve qui donne infiniment moins que les riches, qui ont été certainement très fiers de voir que Jésus avait remarqué ce qu'ils avaient donné. Mais que remarque Jésus ? Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur ne recherche pas à grappiller le maximum, comme quelquefois on le voit dans les appels d'argent. Tous les dons sont intéressants, même les plus petits. Mais il s'arrête sur l'attitude intérieure. Il considère plus la dimension qualitative que quantitative. Jésus insiste là-dessus, en particulier dans 2 paraboles, dans la parabole des talents et dans la parabole des mines. Jésus souligne là le résultat accompli, parce que le premier dans chacune de ces 2 paraboles a rapporté beaucoup plus que le deuxième, proportionnellement. Oui, mais la manière dont chacun a agi. Et puis une histoire parmi certainement tant d'autres, mais qui est beaucoup plus récente, même s'il y a un peu plus de 2 siècles que cela s'est passé, c'est l'histoire de Mary Jones, vers 1800 à peu près. Elle a travaillé 6 ans, alors qu'elle était une fillette, pour pouvoir faire 40 kilomètres aller pour aller chercher une Bible. Et quand elle est arrivée, le pasteur avait donné la dernière Bible qu'il avait. Mais alors, il a donné celle qu'il avait promise à quelqu'un. Et elle a refait 40 kilomètres sans chaussures. Et de là est née l'alliance biblique. Une petite œuvre avec une fillette qui peut donner des résultats extraordinaires. Parmi nous, il se trouve de ces personnes sans apparence que Dieu doit remarquer favorablement, de ces personnes qui, par leur conseil, au bon moment, auront aidé quelqu'un, qui, par leur témoignage vécu, sans s'en rendre compte, auront touché, qui, par leur prière persévérante, auront déclenché des bénédictions, qui, par leur contribution financière, auront soulagé une personne, soutenu l'Église. Jésus s'est choisi et se choisit encore aujourd'hui des collaborateurs parmi ces personnes sans importance, faibles, insignifiantes, dans un mur. Les pierres sont de différentes tailles. Toutes sont importantes pour que le mur soit solide. Et c'est une catastrophe si une grosse pierre s'effrite, nous sommes d'accord. Mais les plus petites sont aussi nécessaires pour le maintien du mur. Alors peut-être que nous réagissons ainsi. Mon action, mon don, ce n'est vraiment pas cela qui va changer la vie de l'Église ou de telle personne. C'est tellement insignifiant aussi par rapport à ce que fait un tel. En êtes-vous sûr par rapport à Dieu et même par rapport aux autres ? Les membres du corps qui paraissent être les plus insignifiants sont particulièrement nécessaires. Ce qui est important avant tout, ce n'est pas d'être une grosse ou une petite pierre, c'est d'être à la place que Dieu a voulu pour nous. Merci Seigneur, parce que chacun a une place dans ton œuvre et chacun t'est précieux. Mais voilà, malheureusement, nous ne réagissons pas toujours ainsi. Je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas beaucoup, donc je reste sur la touche. Je ne sais pas bien prier, donc je ne prie pas. Je ne sais pas bien parler, donc je ne cherche pas à témoigner. Et pourtant, le Seigneur, à travers son enseignement, me rappelle qu'un jour, quand je serai devant lui, il me demandera ce que j'aurai fait de mon talent, de ses capacités naturelles peut-être, dont je suis doté. Et la raison avancée par celui qui n'avait qu'un seul talent et qui l'a caché est la peur du maître, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'engagement. Et la raison donnée par le maître est celle-ci, serviteur mauvais et paresseux. Attention donc à ne pas être de ces personnes sans importance par orgueil. S'engager, c'est en effet se mettre à nu, et les autres risquent de percevoir les défauts. Beethoven, le grand compositeur, qui était devenu sourd, tout d'un coup a interrompu l'exécution d'un morceau de l'orchestre. Et il a déclaré en regardant un des musiciens, « Nous reprendrons lorsque le piccolo acceptera de jouer. » Le musicien alors s'excusa et avoua avoir cessé de jouer à cause d'un sentiment d'inutilité qu'il ressentait face aux instruments plus nombreux et plus gros que lui. Il pensait passer inaperçu, mais il ne l'avait pas été pour le chef d'orchestre, qui de plus était sourd. Même ce petit instrument était utile aux yeux du grand compositeur. Vous sentez-vous inutile dans l'Église ? Aux yeux de Dieu ? Peut-être alors vous ne participez pas aux réunions de l'Église facilement, parce que vous ne trouvez pas votre place. N'enterrez pas votre talent. Vous êtes précieux pour Dieu, dans son œuvre, mais aussi pour les autres. Même si vous ne le ressentez pas, même s'ils ne vous le disent pas, et oui, on est en France, et on ne va pas pousser à l'orgueil quand même quelqu'un en l'encourageant par ses bonnes dispositions. Nous pouvons nous déprécier, nous replier sur nous-mêmes, et alors oublier l'essentiel parce que nous ne regardons que notre nombril. Au lieu de cet égocentrisme, Dieu nous invite à nous donner à lui, en lui remettant nos petites capacités, notre sentiment d'inutilité, en cessant de nous comparer aux autres à tel point que nous imaginons le regard de Dieu sur nous à travers celui que nous pensons être celui des autres sur nous. Et je vous propose de terminer avec l'exemple de ces hommes et de ces femmes. Il y en a qui sont nommés, qui ont reconstruit les murailles de Jérusalem avec Néhémie. Nous sommes à peu près en 440 avant Jésus. C'est vrai que le nom de Néhémie revient souvent dans ce livre, mais il y a aussi la liste de tous ceux qui ont participé aux travaux. C'est vrai que le fait de lire cette longue liste est quelque chose de fastidieux, mais cela souligne un élément important. Tous sont marqués et chacun était important aux yeux de Dieu dans la construction. Même celui qui a bâti devant chez lui, même celui qui a bâti, comme il est dit, à côté de chez lui, même celui qui a bâti, il est dit, vis-à-vis de sa chambre. Et pas seulement ceux qui ont fait une longue distance de muraille. Heureusement, tous ont répondu présents et se sont engagés, sinon il y aurait eu des failles et provoqué des fragilités face à l'ennemi qui risquait d'arriver. Le plus petit maillon est estimé par Dieu. Il faut viser qu'il le soit par nous aussi. C'est vrai, dans une église, il y a des pierres plus imposantes que d'autres, mais une église est riche quand elle est constituée de ces chrétiens trop souvent perçus comme sans importance, insignifiants. Je reprendrai une chanson d'Yves Duteil qui parle de ces personnes insignifiantes. Ce sont des gens sans importance, avec des gestes quotidiens qui font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. Ce sont des gens sans importance et qui parfois ne disent rien, mais qui sont là par leur silence quand ils sont loin. Donc, c'est bien, oui, si nous apprenons à voir l'utilité de chacun, même à travers les plus petits gestes qui peuvent être déterminants. Le but n'est pas de nous croire importants, alors, et de trouver un statut qui nous permettrait d'être enfin reconnus et d'avoir un certain pouvoir, ce n'est pas le but. Mais c'est bien si nous ne nous replions pas sur nous-mêmes en pensant que nous sommes si peu de choses. C'est bien si nous nous engageons dans l'humilité et la consécration en nous rappelant ce que Hudson Taylor, qui a été un des pionniers missionnaires en Chine, qui a été au départ de milliers de missionnaires et d'une œuvre extraordinaire en Chine, qui disait « Une petite chose est une petite chose, mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. » Les personnes insignifiantes vont continuer à passer inaperçues dans l'Église, mais qu'elles sont grandes dans leur fidélité en vivant au service de Dieu et des autres.